Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous à nouveau cette semaine. Et pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on plonge dans un livre, dans une histoire, dans un récit émouvant, un récit riche, un récit brillamment raconté par son auteur. Ce récit, c'est Le Petit Astronaute de Jean-Paul Hyde. C'est du côté des éditions de La Pastèque. Un récit de résilience, un récit lumineux sur une famille qui, dans le fond, se voit joindre par un petit enfant qui est différent, qui est en situation de besoin très particulier. Et donc, on les suit dans leur quotidien, dans leur vie, autant donc l'enfant que la famille et la fratrie. Alors, un livre qu'on explore cette semaine à La Vie en BD, en compagnie de son auteur. Et l'entrevue commence dans quelques instants. Alors, on est dans le cadre de La Vie en BD et on plonge maintenant à la rencontre de l'album Le Petit Astronaute, un album qui a été publié tout récemment du côté des éditions La Pastèque, un album dont on tenait à vous parler rapidement, un album qui est touchant, qui est riche, qui est fort. Et on est bien content de pouvoir échanger aujourd'hui avec son auteur, Jean-Paul Hyde. Bonjour.
Bonjour, Raymond.
Alors, d'entrée de jeu, peut-être, je pense que j'aurais envie de commencer par la relation que tu entretiens avec ce récit-là. J'ai l'impression que c'est un récit qui t'habite depuis quand même déjà longtemps. Ça fait 15 ans au moins que tu songes, que tu réfléchis à raconter cette histoire-là. Ça fait 15 ans que tu sais aussi qu'éventuellement, ce récit-là qui est très proche de toi, tu vas vouloir, tu vas devoir presque aussi le raconter. Donc, qu'est-ce qui fait peut-être qu'on se sent prêt à raconter donc cette histoire-là, cette histoire d'un père, d'une famille qui reçoit un enfant à besoin particulier, un enfant en situation de handicap par la naissance et qui l'accueille, l'accompagne au mieux de leur capacité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se lance maintenant pour partager cette histoire-là?
C'est ça. Donc, comme tu le dis, moi, ça fait 15 ans que cette histoire-là me trotte en tête pour la bonne et simple raison que, bon, je suis le père d'un enfant handicapé. Mon fils a 20 ans, il a une paralysie cérébrale. Et évidemment, au moment où ça t'arrive, tu ne t'en rends pas compte, mais ça va complètement chambouler ta vie. En fait, toute ta vie va devoir s'articuler autour des besoins de cet enfant-là. Donc, je savais qu'un jour ou l'autre, c'est un sujet qu'il faudrait que je touche, je dirais même presque par honnêteté, parce que ça fait partie de ma vie. Mais je ne suis pas du tout de l'école de l'autofiction, de l'autobiographie, comme beaucoup de mes collègues, Michel Rabagliati, Guy Delisle, Sviane, Cyrus et beaucoup d'autres, au Québec particulièrement. Je suis de l'école du magazine, l'école du polar, l'école des scénarios très construits. Et de façon générale, le personnage auteur se tient très loin de la lentille, en fait. En fait, il est derrière la lentille. Et donc, il a fallu que j'attende de trouver la bonne formule pour en parler. Et puis, je dirais, de façon pratico-pratique, il fallait que j'attende aussi d'avoir la distance émotive pour en parler. Parce qu'au début, quand un enfant, donc c'est une paralysie cérébrale, c'est donc un enfant qui a eu un accident cérébrovasculaire. Donc, il n'y a pas deux enfants qui vont avoir les mêmes limitations et ça va prendre plusieurs années avant d'avoir une idée du défi que ça va représenter. Donc, je n'avais pas du tout à l'époque la perspective que j'ai aujourd'hui de voir un peu dans le rétroviseur ce que ça représente en fait comme défi et ce que représente en fait comment le bonheur va réussir à s'articuler à travers tout ça. Et puis, ça m'a pris du temps aussi avant de trouver la manière d'en parler. Je pense que c'est très personnel, là, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime se mettre, comme je le disais, en dessin. Je n'aime pas me représenter, je n'aime pas l'idée personnellement de me mettre à l'avant-plan pour raconter cette histoire. Parce que d'emblée, évidemment, quand tu penses à une idée comme ça, tu te dis, ben voilà, je vais raconter ce que moi j'ai perçu, comme ça a été déjà beaucoup fait ou en bande dessinée ou au cinéma, en littérature. Et j'ai eu l'idée, en fait, de raconter cette histoire-là à travers sa sœur, à travers les yeux, donc, d'un autre enfant de 5 ans, son aîné, et qui, dans ses souvenirs d'enfant, mais dans ses mots d'enfant de l'époque, va se remémorer, en fait, ce que c'était l'arrivée de cet enfant-là et ce que ça représentait de défi pour elle petite fille, parce que c'est l'histoire de Juliette, c'est Juliette qui est la narratrice de l'histoire, et donc de nous raconter ça. Et finalement, ben, je dirais que je suis quand même content de l'avoir fait aujourd'hui. Sais-tu pourquoi? Parce que je me rends compte a posteriori que si j'avais fait ça trop tôt, je me demande si on ne m'aurait pas un peu collé une étiquette d'un dessinateur d'une cause. Et je déteste les étiquettes de façon générale. D'ailleurs, je veux dire, moi, je ne fais pas deux albums qui se ressemblent de suite. Donc, je suis content de l'avoir fait aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en possession de mes moyens pour parler d'un sujet aussi sensible. Et je pense avoir la maturité aujourd'hui pour ne pas tomber dans les pièges que ça représente, c'est-à-dire une certaine forme de, comment je dirais, de misérabilisme peut-être, d'inciter à une forme de pitié, tout ça, de garder quelque chose de nuancé. Je pense que c'est aujourd'hui que je pouvais le faire. Et je suis très content, en fait, de l'avoir fait en ce moment-là.
C'est-à-dire on est un peu dans une logique de double maturité. Donc, d'un côté, la maturité comme père, ouais, pour avoir vécu cette relation-là, l'avoir amenée sur la distance, de savoir que ben maintenant, ton fils, il est heureux, je veux dire, il vit sa vie, puis la vie au mieux de ce qu'il peut... il est heureux, tu le mentionnes à la fin, donc il vit dans le bonheur, si on peut dire. Donc, il y a une satisfaction de ce côté-là, il y a un recul que ça permet. Et de l'autre, ben, ta maturité de dessinateur et d'auteur, où tu as trouvé ta voix, tu sais comment raconter, tu maîtrises ces éléments-là. Et tu disais tantôt, dans le fond, pour aborder un sujet comme celui-là, ben, on a besoin de ce recul-là, de cette maturité-là. Ça va servir le récit parce qu'on va savoir comment l'amener, comment l'équilibrer, comment l'intégrer de manière peut-être un peu plus instinctive, d'une certaine façon. Donc, parce que nécessairement, c'est des sujets qui brassent des émotions, qui brassent des souvenirs aussi. Donc.
Oui, tout à fait. Et puis, je ne voulais pas en faire un récit. Je voulais vraiment éviter d'en faire un récit qui raconte, je veux dire, un mot énorme, mais le deuil d'un père. Parce que c'est sûr que dans l'arrivée d'un enfant différent comme ça, il y a ce qu'on pourrait appeler le processus du deuil de l'enfant que tu n'auras pas. Et puis moi, je ne voulais pas m'en aller vers quelque chose de trop introspectif par rapport à moi, par rapport à l'entourage, parce que, chose que je me rends compte après avec la perspective que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on a le diagnostic, par exemple, le diagnostic d'un enfant dont l'avenir va être hypothéqué, il ne faut pas avoir peur des mots, et c'est une terrible onde de choc dans le petit cercle de la famille, mais même de façon élargie. Et dans l'œil du cyclone, il y a une personne pour qui ça ne va strictement rien changer, c'est mon fils. Et lui, le diagnostic n'a strictement rien changé à sa vie parce que contrairement à l'image qu'on a beaucoup quand on pense au handicap, des gens qui ont fait des AVC adultes, mon fils, en fait, c'est l'équivalent d'un AVC, mais durant la grossesse ou à la naissance. Il est donc né comme ça. Il n'a pas eu, lui, de deuil à faire de son ancienne vie. Il a toujours... Et donc, à travers ce livre-là, ce que je voulais montrer, c'est que pour cet enfant-là, ce n'est pas un enfant qui... en fait, je fais souvent l'allusion, l'analogie avec des oiseaux. Mon fils, dans la volière, ce n'est pas un oiseau qui a une aile cassée, c'est simplement un oiseau qui ne vole pas, parce qu'il n'a jamais volé. C'est une espèce qui ne vole pas. Et l'idée un peu la métaphore du petit astronaute, ça revient un peu à ça aussi, c'est de dire qu'ils sont un peu les habitants d'une planète qu'on ne connaît pas, qui sont arrivés sur Terre, une Terre qui n'est absolument pas adaptée à eux. Mais en fait, on va passer notre vie à essayer de déterminer le mode d'emploi de cet enfant-là, qui est le seul de son espèce. Mais il est comme il est. Ce n'est pas un enfant à qui il manque un morceau. Mm-hmm. C'est à partir de ce moment-là, en fait, que là, tu comprends que, ben voilà, le handicap, c'est ça. Ce n'est pas triste comme histoire. Enfin, c'est triste, oui. C'est sûr que il y a beaucoup d'histoires tristes autour de ça parce que ça ne se vit pas nécessairement dans les meilleures circonstances. Et la vie est très difficile aussi pour certains qui ont, je veux dire, il y a des familles monoparentales, des familles... on dit des familles immigrantes qui ne parlent pas français, qui vont se retrouver avec un enfant très lourdement handicapé. C'est terrible. Mais de façon générale, le handicap, le problème, c'est beaucoup les gens autour qui le regardent et qui disent « Oh mon Dieu, j'aimerais pas me retrouver dans la peau de cet enfant-là. » Et c'est le miroir, en fait, qu'on donne, l'image qu'on renvoie à ces enfants-là que je voulais essayer de casser, en fait, à travers cet album-là.
Et il y a une citation qui est assez marquante, je pense, dans l'album, où à un moment donné, c'est un docteur qui dit au personnage du père, dans le fond, dans le récit, qui dit « Regarde, à force de vouloir guérir l'enfant, on peut lui donner aussi l'impression qu'on ne l'aime pas comme il est, mais je pense que tu viens de bien le dire aussi, dans le fond, le handicap, ce n'est pas quelque chose à guérir, ça fait partie d'eux. » Et donc, oui, nécessairement, c'est dans cette perspective-là qu'ils vont développer leur relation avec la société. Donc, de trop les amener dans une logique de « il faut combattre, il faut régler », ben ça peut les amener à... Ça peut rendre encore plus difficile, dans le fond, leur manière de façonner cette relation-là, j'imagine.
Oui, tout à fait, tout à fait. Le handicap... En fait, je ne veux pas généraliser parce que le mot handicap est un mot fourre-tout où on met autant des personnes âgées en perte d'autonomie que des trisomiques, le spectre de l'autisme, c'est très, très large. Hein. Mais évidemment, moi, quand je parle d'enfants, c'est des enfants qui naissent donc avec des limitations. C'est des enfants assez lourds aussi. C'est ce qu'on appelle le polyhandicap dans le cas de mon fils. Donc, il y a à la fois une déficience intellectuelle et une déficience physique. Et donc, c'est ça. Ce sont des enfants dont le handicap fait partie de leur identité. C'est une partie, je veux dire, toute leur relation sociale, leur relation à leur monde extérieur va être déterminée par leur handicap. Le rapport à un tiers, un enfant qui, par exemple, a besoin d'un tiers dans toutes les sphères de sa vie pour à peu près tout ce qu'il a besoin de faire, bien, il va avoir un rapport très particulier avec les gens déterminants autour de lui. Ça va devenir un morceau de sa personnalité même. Donc, voilà, tout ça pour dire que le handicap, ce n'est pas quelque chose qu'on réussit qu'on prend une pilule, on guérit, et puis hop, on devient la personne qu'on était supposé être. Ce n'est pas aussi simple que ça.
Et ça donne l'a priori aussi, je pense, quand on place un peu les éléments du récit, je pense que cette perspective-là est importante. Parce qu'au final, ben oui, il y a énormément d'émotions, je pense, dans Le Petit Astronaute. Il y a des moments qui sont durs, il y a des moments qui sont tendres, il y a des moments qui sont magnifiques. Et au final, ça devient un album qu'on veut peut-être plus lumineux, un récit de résilience, au bout du compte.
En fait, honnêtement, je me suis rendu compte que ce livre-là, moi, c'est le livre que j'aurais voulu lire le jour où j'ai eu le diagnostic de mon fils. Quand on a un diagnostic comme ça, évidemment... tout à fait inattendu, tu ne connais absolument rien de ça. On te dit, dans mon cas, c'était paralysie cérébrale. Et là, tu as des images, des images de Téléthon, c'est à peu près tout. Tu te mets évidemment mauvaise idée d'aller voir sur le web. Et puis là, tu es un peu catastrophé. Tu cherches. Et en fait, ce que tu cherches, c'est une image à laquelle tu vas pouvoir te raccrocher. Même une histoire fictive, mais quelque chose où on va te dire, voilà, la vie, elle sera peut-être pas facile, mais le bonheur sera possible. Et ça, je vais t'avouer que je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Les seules fois où on va parler de handicap, c'est à travers des livres un peu mode d'emploi, des livres témoignages de comment je suis passé à travers, ou alors des livres didactiques. Je ne sais pas, le Martin, mon ami handicapé pour les enfants ou des trucs comme ça, mais des histoires fictives qui vont raconter une histoire de bonheur ordinaire, d'une famille ordinaire qui accueille un enfant extraordinaire, il n'y en avait pas. Et je me dis, et je dois te dire que je suis très touché en ce moment, parce que ça fait quoi, un mois que le livre est sorti, je reçois des dizaines de pavés, des témoignages de gens qui m'écrivent et qui me disent à quel point le livre pour eux a été une source de réconfort pour certains, des gens qui n'arrivaient pas à assumer les diagnostics, des gens qui n'arrivaient pas à en parler même, et de se voir, uniquement se voir dans une fiction, de dire « je ne suis pas seul, il y en a d'autres qui vivent la même chose que moi et le bonheur est possible ». Moi, en tout cas, je me dis qu'en tant qu'auteur, je ne pensais jamais qu'un livre pourrait arriver à faire autant de bien. J'en suis surpris, j'en suis honoré. Et puis, je me dis, voilà, mais en fait, c'est peut-être le livre que moi-même, j'aurais aimé avoir le jour du diagnostic.
Oui, parce que dans le fond, d'un côté, on choisit quand on le raconte, en fait, puis j'ai pas l'impression que tu caches les mauvais moments, qu'on essaie d'embellir le portrait, mais il y a une sincérité qui en découle, et j'imagine que cette sincérité-là découle aussi du fait de ce qu'on choisit de mettre ou non, qu'il y a un tri, évidemment, à faire dans les informations, dans les anecdotes, dans les moments, dans la beauté comme dans la tristesse. Il faut réussir à équilibrer tout ça pour que ça soit vrai, que ça sonne vrai. Ça sonne sincère, dans le fond, et un portrait réel, au bout du compte.
Mais en fait, tu vois, moi, j'ai pris la décision de ne pas raconter ma vie à moi. Ce sont des personnages fictifs, mais évidemment très inspirés des personnages autour de moi, de plus ou moins la géométrie familiale qu'il y a autour de moi. Mais je voulais me garder les coudées franches pour pouvoir faire des personnages que je connais, des personnages de bande dessinée à qui je vais faire vivre des choses qui ne sont pas arrivées. Donc, en modifiant leur nom, leur apparence, bien sûr. Et ça m'a permis, en fait, de raconter ce que j'estime qui est plus que la réalité factuelle. C'est-à-dire, j'ai été chercher dans les témoignages que j'ai reçus, les choses que des amis ont vécues, des trucs dont j'ai entendu parler, des trucs que j'ai vus, en faire des espèces de scènes composites, des personnages composites pour raconter ce que j'avais envie de raconter. Et évidemment, dans le choix des scènes que tu montres, ben, c'est là qu'il y a la ligne un peu éditoriale parce que tu ne peux jamais être objectif. Je veux dire, moi, de toute façon, je comptais pas l'être avec ça, mais je voulais en même temps montrer un visage juste, selon moi. Donc, de montrer à la fois ce que ça représente comme défi, ce que ça représente comme défi par rapport à la société, le regard des autres, l'acceptation dans une société, à la garderie, par exemple. Et aussi de montrer qu'une famille qui s'articule autour de cet enfant, d'un enfant comme ça, c'est aussi possible. Et que même pour sa petite sœur, sa grande sœur en fait, qui est une enfant à l'époque, sa vie va continuer à elle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai choisi de mettre. Par exemple, quand la petite Juliette, qui évidemment est très près de son frère, qui estime être la seule à pouvoir entendre les mots qui ne sortent pas par sa bouche parce que son frère ne parle pas. Mais elle a sa vie à elle aussi. Elle apprend à faire du patin à roulettes. Elle se fait un petit chum dans la ruelle. Elle est triste parce qu'elle n'a pas été invitée à un anniversaire. La vie continue. Et c'est ça aussi que je voulais montrer. C'est que le bonheur, c'est tentaculaire, le bonheur. Et on décide c'est un peu à nous de le prendre puis de l'accepter. Maintenant, je suis tout à fait conscient que dans mon cas, et dans le cas de la famille que j'illustre, on est privilégié, on est une famille unie. Moi, on est très entouré aussi. Très différent pour des familles monoparentales ou même selon le handicap. D'ailleurs, j'en traite à un moment donné dans une scène où Pénélope, la maman, rencontre à l'hôpital une femme dont l'enfant a des énormes problèmes de santé. Et là, on se rend compte que c'est une toute autre réalité et aussi d'autres questionnements, même moraux. Que beaucoup de familles auront des questions qu'elles auront à se poser et que la plupart d'entre nous n'auront pas à se poser.
Et ce récit-là, peut-être si on reste un peu dans le pourtour avant de l'aborder de front, est-ce que quand on se lance dans la création d'un récit qui est évidemment aussi personnel, par le truchement évidemment de la fiction, on l'a bien campé, est-ce que on le travaille un peu avec des allers-retours, avec rapidement des seconds lecteurs ou des premiers lecteurs, ou au contraire, est-ce qu'on choisit de le bâtir un peu dans notre perspective et une fois l'ouvrage terminé, que l'on commence à le montrer à certaines personnes pour avoir des retours?
Bon, écoute, dans ce cas-là, moi qui suis quelqu'un un grand inquiet de nature, tous mes scénarios, je les ai à peu près toujours fait lire par des petits comités de lecture maison pour avoir recueillir des commentaires, surtout dans des scénarios qui prennent la forme un peu de polar. L'architecture est très importante, là. Les perches lancées, les fausses pistes, etc., de savoir qu'on ne s'en va pas dans le mur avec ça. Ici, c'était très différent et d'autant plus que c'était très personnel. J'ai vraiment décidé de le faire et c'est la première fois que je le fais. Je me fais confiance. J'ai vraiment écrit ça d'une traite sans en parler à personne, en fait, sans le montrer à personne. C'est une fois qu'il a été terminé que j'en ai fait de la lecture à ma blonde qui avait les larmes aux yeux, comme moi, en lui disant. En fait, ma grande inquiétude, c'était de savoir. Est-ce que je suis le seul qui est aussi ému? Parce que, bon, moi, j'ai des références. Quand on parle de handicap, j'ai des images, j'ai des noms, j'ai des prénoms. Est-ce que c'est une magie qui opère juste avec les gens de l'entourage ou pas? J'ai montré à ma fille qui, elle, aussi, avait les yeux dans l'eau en le lisant, mais encore une fois, elle était très, très prise par cette histoire-là parce qu'elle en connaissait les références. Mais c'est au moment où je l'ai envoyé à mes éditeurs que là, j'ai compris que, en fait, oui, ça a l'air à fonctionner au-delà du cercle familial. Mais donc, c'est ça. Ça a été vraiment une histoire qui a été faite en vase clos. Mais il faut dire que tous ces petits chapitres-là font partie un petit peu du patrimoine familial parce que ce sont toutes des choses qui nous sont plus ou moins arrivées, qui sont arrivées autour de nous, des histoires qu'on connaît. Donc, l'écriture a été assez simple, je dirais. Le tout, ça a été évidemment, le problème, c'est pas d'avoir les idées, c'est de les mettre en forme pour que ça ait l'air d'un récit et que ça prenne une forme aussi, comme je les aime, avec des allers-retours, etc., et que tout ça soit cohérent. C'est beaucoup ça, le travail, mais la matière brute, elle existait un petit peu déjà dans ma tête parce que, bon, témoignages, des trucs recueillis, et puis des trucs que j'ai mûris aussi durant ces 15 années-là.
Et en parallèle, j'ai l'impression que tu avais fait un peu un coup de semonce autour de ce récit-là, ou du moins un test, ou je ne sais pas exactement comment le présenter, mais dans le collectif Montréal-Lyon, tu avais fait une courte histoire, L'école des enfants invisibles, où tu avais abordé la relation que tu entretiens avec ton fils, cette réalité-là qui te côtoie. Est-ce que le fait d'avoir lancé cette histoire-là et d'avoir réussi peut-être à l'amener, que ça avait été un signal aussi que tu étais peut-être prêt à te lancer dans le petit astronaute dans l'histoire de façon un peu plus large?
Oui, tout à fait. Ça a été un déclencheur. Moi, c'est la première fois que j'abordais le sujet. C'est une question toute bête et très personnelle. Hein. C'est que quand c'est un peu ouvrir les rideaux sur ce qui se passe dans ta maison, je suis totalement porté vers ça, d'autant plus qu'avec mon fils, j'ai un peu de pudeur parce que je ne veux pas que ça soit mal interprété et je veux pouvoir l'expliquer, en fait, tout simplement. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai étalé beaucoup. Et puis là, j'étais ni plus moins qu'une espèce de forme de coming out où je parlais un petit peu de ma réalité et de montrer la réalité. En fait, à l'époque, c'était l'école de mon fils, l'école primaire, de montrer ce que c'était comme une école pleine d'enfants super heureux, là, je veux dire, ils te voient, puis s'ils pouvaient, ils te sauteraient dans les bras, là, tu sais, il y a des fous rires, c'est une école, c'est tout. Bon, ils sont en fauteuil roulant, ils sont en marchette, mais ça reste une école. Et c'est une sacrée leçon de vie que ces enfants-là te servent sans même te dire un mot. Et donc, c'est un peu ça que je voulais montrer, ça a très bien marché, et je dirais que même ironiquement, à ce moment-là, dans la petite communauté des parents de personnes handicapées, l'autre coming out, c'était que j'étais auteur de BD. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ignoraient. Donc c'est ça. Ça a été, en fait, c'est à partir de ce moment-là que je me suis donné la permission de me dire, je suis peut-être quand même le bon auteur pour en parler, pour le dessiner. Parce que l'autre question que j'avais, c'est, est-ce que je suis le bon dessinateur pour faire ça? Ou est-ce que ce ne serait pas un scénario que je devrais faire dessiner par quelqu'un d'autre? Ça aussi, c'est une idée qui m'est restée longtemps en tête. Je n'étais pas sûr d'être la bonne personne pour le mettre en image.
Qu'est-ce qui faisait hésiter?
Je sortais de Mémoria, de La femme aux cartes postales, des récits très antiques. C'était, comme je te le disais, c'est vraiment axé sur la construction de la fiction, beaucoup de recherches de références. On n'est pas du tout dans l'introspection. Quand tu penses à ce scénario-là, tu penses à, évidemment, les références qu'on a tous, ceux dont j'ai parlé, les Guy Delisle, Michel Rabagliati, et etc., des dessins aussi qui sont peut-être beaucoup plus personnels, peut-être, que moi. J'ai un dessin peut-être un peu plus, comment je dirais, franco-belge, peut-être un peu plus générique, mais aussi un petit peu plus réaliste, il faut le dire. Et je ne savais pas quel de chimie sortirait de ça jusqu'à ce que je me lance, en fait. C'est toujours comme ça. Il faut se lancer pour voir ce que ça donne.
Et tu parlais de structure, en fait, que tu aimes justement les récits avec des allers-retours, des éléments. J'imagine qu'à un moment donné, dans le fond, dans Le petit astronaute, ben, tu disais d'entrée de jeu, on trouve la perspective, on se dit « OK, je vais le raconter par le truchement de l'histoire de sa sœur, de sa grande sœur ». Et en parallèle, le deuxième élément de départ du petit astronaute, c'est l'idée justement qu'on va plonger dans ses souvenirs à elle, dans un retour vers le passé qu'elle fait en retournant dans l'appartement de son enfance, en fait un pèlerinage qu'elle fait régulièrement chaque année, mais à cette occasion précise-là, ben, il y a une visite libre, donc non seulement elle peut aller à l'extérieur de l'appartement, revoir sa ruelle, la cour et le reste, mais rentrer à l'intérieur, revoir les pièces. Et donc, c'est au contact de cette visite libre, si on peut dire, que les souvenirs reviennent. Et donc, ça te permet, toi, comme auteur, comme scénariste dans ce cas-ci, ben, de justement jouer avec des allers-retours, de nous amener dans une construction qui ne sera pas purement linéaire non plus. Peut-être de retrouver, toi, tes repères de scénariste de Memoria, de La femme aux cartes postales, de Jérôme Bigras et autres aussi, à l'intérieur de ce récit très personnel-là.
Oui. En fait, ce que j'aimais beaucoup dans l'idée que j'ai eue, c'est l'idée de circonscrire la narration dans une période très courte, qui est la période d'une visite libre d'un appartement. Donc, on peut imaginer que c'est pendant, je ne sais pas, moins d'une heure peut-être, où la grande Juliette, qui a 25 ans à l'époque, à ce moment-là, va faire la visite et de se dire que tous ces souvenirs qui vont lui revenir et qui vont même apparaître de façon presque fantomatique devant elle lors de la visite, mais dans les faits, vont arriver dans une période très courte, c'est un huis clos. C'est ça. Et ça me permettait aussi de partir à partir des événements, à partir d'un élément dans une pièce, à partir de quelque chose qui va être évoqué, de sortir de la maison, de m'en aller dans une cour d'école, de m'en aller dans une garderie, aller visiter le quartier, parce qu'évidemment, il y a aussi le fait que j'ai illustré et identifié beaucoup des décors du quartier pour essayer d'incarner ça dans une espèce de forme de réalité concrète pour que les gens, pour que ça ne soit pas un scénario, une histoire générique en fait. Je voulais que ça soit une histoire ancrée dans une réalité pour que les gens se disent « c'est peut-être l'histoire de mon voisin ». Et que dans les appartements, qui est évidemment un appartement montréalais, comme beaucoup de gens les connaissent, c'est à Rosemont, on reconnaît ce type d'appartement-là, ces décors-là. Donc, il y a quelque chose de très… En rajoutant des détails aussi, c'est aussi l'idée, le plaisir de certains lecteurs de faire ce voyage-là dans leur propre souvenirs à eux. Parce que j'ai eu plusieurs commentaires aussi de cet ordre-là de gens qui ont revécu à travers ça la fois où ils sont retournés dans la maison de leur grand-mère après des années, ou des maisons parce qu'il fallait vider la maison ou des trucs comme ça. Donc, où on redécouvre en fait tous les petits détails qui nous avaient échappé mais qui étaient quand même restés dans notre mémoire. Donc, toute cette espèce de nostalgie évocatrice, c'est quelque chose que ça me permettait de faire. Donc, voilà.
Et au niveau visuel, évidemment, après ça, une fois qu'on choisit de le structurer comme ça, ben j'imagine que ça oriente aussi les choix visuels qu'on va faire. Par exemple, chaque scène a un peu, j'ai l'impression, sa couleur dominante qui va supporter ensuite le reste.
Oui. Oui, en fait, je ne savais pas très bien vers quoi je m'en allais au niveau couleur. Ça a été fait de façon très organique. Je me disais, je fais souvent ça, en fait, je pars avec une couleur dominante par scène, ce qui aide aussi au niveau de la, sans même qu'on s'en rende compte, mais au niveau de la lecture, si jamais il y a des gens qui se sentent un peu perdus, surtout qu'on fait beaucoup d'allers-retours à différentes époques, donc ça clarifie déjà au niveau de la couleur toutes les ambiguïtés qu'il pourrait y avoir. Et puis, c'est allé évidemment vers des couleurs assez pastelles. Bon, il y a quelques scènes qui sont plus sombres, des scènes dramatiques, mais de façon générale, j'ai été vers une coloration, je dirais une palette réduite, mais qui fluctuait en fait de scène en scène.
Oui, en fait, je la recevais comme enfin un dessin et une couleur qui est sobre, mais lumineuse, d'une certaine façon.
Oui, j'ai beaucoup travaillé la lumière, en fait. Beaucoup, beaucoup même. C'est quelque chose que j'ai après travaillé beaucoup avec La femme aux cartes postales, c'était en noir et blanc. Mais ces effets de surexposition, par exemple, de Juliette va se tenir devant la fenêtre et on va voir des reflets éblouissants sur sa chevelure à cause du soleil. Ces effets-là, très cinématographiques, en fait, c'est des effets qu'on a appris, en fait, qu'on connaît nous autres à travers la lentille du cinéma, que j'essaye de reproduire. C'est ça, quelque chose de très lumineux au premier sens du terme, en fait. Et avec les reflets, les ombres portées, mais même les reflets portés sur les murs, etc. Donc, J'aime beaucoup travailler la lumière de façon générale. Je trouve que c'est quelque chose qui nous amène une tridimensionnalité dans le dessin. Avec les ombres et les lumières, on donne des indications sur ce qu'il y a autour de ce qu'on est en train de regarder. On ne le voit pas, mais il y a un soleil qui est directement au-dessus de nous, une ombre très courte. On est à midi et donc il fait chaud. C'est quelque chose qui n'est pas écrit nulle part, mais on va le sentir comme ça. J'ai une ombre portée à l'arrière du personnage qui sous-entend que devant lui, il y a un très haut édifice. Je viens de rajouter une tridimensionnalité à toute image. Et ça, si tu veux faire une espèce de, le mot est un peu galvaudé, mais une espèce d'immersion dans un univers, c'est très pratique. Mais évidemment, ça te demande beaucoup de travail parce que la lumière et l'ombre, c'est pas simple.
Non, puis on voit à quel point ensuite, ben, tu parles d'ancrage, d'immersion, et ça nous renvoie, ça met en évidence la parole de ces personnages-là, les silences aussi de ces personnages-là, et finalement, tout ça devient une façon de porter, d'amener plus haut, dans le fond, tout ce qui anime ton histoire, au bout du compte, puis qui est vraiment au cœur, parce que tout ça est au service, au bout du compte, de l'humain qui peuple l'histoire et de la parole ou l'absence de parole qu'ils vont porter.
Ah oui, c'est sûr. Avec le petit astronaute, je me suis permis aussi de retourner un petit peu à une certaine forme de liberté que je prenais avec Jérôme Guira, où on sort un peu des cases, des cadres, on sort aussi des codes. Comme Tom, le petit astronaute lui-même, ne parle pas, il a fallu trouver quelquefois des espèces de métaphores graphiques pour permettre de mettre, pour mettre en image, en fait, ce qui se passe dans sa tête ou la façon dont c'est perçu par sa sœur. Alors, donc, comme lui parle avec un tableau de pictogrammes qui va pointer du doigt, eh bien, on va employer ces pictogrammes-là dans des bulles, comme s'il parlait en images, en fait, qui est assez ironique parce qu'on est en train justement de lire une bande dessinée. Donc, ces suites de pictogrammes-là sont un peu la manière métaphorique que j'ai choisie pour le faire parler quelquefois. Et puis, il y a cette scène-là au tout début, la scène d'ouverture, qui est une scène où c'est ni plus ni moins qu'une espèce de vision subjective. Du petit homme, petit astronaute, qui arrive sur Terre, qui en fait atterrit de façon un peu catastrophique dans sa chambre. Et il nous raconte un peu comme un cosmonaute son naufrage, qu'est-ce qui est arrivé, les moteurs ont lâché, etc. Et donc, à travers cette scène-là, qui est évidemment une espèce de scène un peu presque onirique, imaginée probablement par sa sœur, qui, elle, s'explique un peu la réalité de son frère à travers une histoire qu'elle s'est inventée du haut de ses 5 ans. Ben c'est ça. Donc, en sortant du cadre un peu classique de la narration en bande dessinée, ben ça m'aura permis de pouvoir raconter plus à travers le handicap. Parce que mine de rien, un personnage handicapé comme Tom, qui a aussi une déficience intellectuelle, c'est très difficile. Parce que initialement, j'avais un peu l'idée de me dire, je me disais, ah, ça serait peut-être intéressant d'en faire un récit raconté par lui, mais rapidement, je me suis rendu compte que ça serait impossible à cause de sa déficience intellectuelle et de la déficience physique, du fait qu'il ne peut pas parler. Si on voulait rester cohérent, ça allait être difficile. Donc, il a fallu que je trouve des astuces graphiques pour l'évoquer et l'idée de le faire parler à travers la bouche de sa sœur.
Et on place ça d'ailleurs assez rapidement dans le récit. C'est référé aussi avec la photo que tu places en postface pour nous ramener vers la réalité dans laquelle s'ancre le récit fictif que tu nous offres, mais où justement la sœur Juliette se met la tête à côté de celle de Tom et imagine dans le fond être capable d'entendre, de transmettre dans le fond comme ça les pensées de Tom vers elle et d'elle vers Tom, de pouvoir communiquer un peu à travers ça. Et donc, on place un peu clairement cette volonté de la sœur de s'approprier cette parole-là, de la connaître, de la comprendre aussi, les trésors d'imagination qu'elle va mettre en branle pour justement se l'approprier, cette parole-là aussi.
Oui, en fait, la photo que j'ai choisi de mettre à la fin est en fait, je me suis rendu compte de ça a posteriori. C'est probablement la photo qui a initié la scène, parce que, comme d'autres d'ailleurs que j'ai retrouvées dans les albums de famille, qui ont été les scènes initiatrices à partir desquelles j'ai construit la fiction. Et J'avais donc cette photo-là où ma fille et mon fils sont tête bêche, tête contre tête, oreille contre oreille. J'avais choisi de les mettre comme ça pour prendre une photo des deux. Et c'est là que j'ai imaginé, en fait, l'histoire de Juliette qui prétend entendre les mots dans la tête de son frère, les mots qui ne sont pas capables de sortir par sa bouche. Et elle se dit, en fait, la seule à être capable d'interpréter ce que dit son frère, et elle raconte un peu, soi-disant, ce que son frère a vécu. Donc, c'est un peu c'est à cause de cette astuce-là, en fait, que Juliette réussit à raconter son histoire, qui est une histoire, qui est une espèce de conte pour enfants, pour se donner une explication à quelque chose qui n'en a pas, qui est le tragique, le destin tragique. Un enfant qui arrive comme ça, avec des limitations, qui représente un énorme défi pour une famille, c'est profondément injuste et en même temps, voilà. Alors elle, l'explication, elle a essayé de se l'inventer à travers le conte du petit astronaute. Qu'elle prétend avoir eu de l'oreille de Tom, en fait.
Et ça amène aussi, tu sais, je veux dire, on voit vraiment la volonté qu'elle a d'avoir une relation positive avec ce frère-là, malgré sa différence ou en dépit de sa différence, ou tout simplement parce qu'il est ce qu'il est, puis on le dit d'entrée de jeu, dans le fond, ça fait partie intégrante de ce qu'il est. Donc, c'est une volonté de bâtir une relation aussi qu'on découvre beaucoup à travers son regard. Puis, pour bâtir une relation, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de partager, etc.
Oui, d'autant plus que ce que je voulais faire à travers ça aussi, c'est souligner l'importance de la fratrie. Les frères, les sœurs, ce sont souvent des gens qu'on oublie un petit peu dans l'équation. C'est des enfants qui vont avoir souvent à payer cher de par leur enfance qui va être volée, le terme est un peu fort, mais je veux dire, ils n'auront pas l'attention que d'autres auront parce qu'il y en a un du groupe qui va demander beaucoup, beaucoup de temps. Et ces enfants-là vont devenir rapidement des adultes responsables beaucoup plus tôt que d'autres. Et ils vont se retrouver avec des responsabilités souvent qu'on n'imagine pas donner à des enfants. Donc, je voulais souligner, et en même temps, c'est la réalité, là. On ne peut pas le nier, on ne peut pas... écoute, la famille, elle est comme ça, il va falloir faire avec. Mais je voulais quand même souligner l'importance de ces frères, de ces sœurs-là, qui souvent d'ailleurs vont se retrouver avec des très, très grosses responsabilités en vieillissant de par leur lien de frères et sœurs. Donc, c'est ça. C'est une relation aussi qui se tisse à travers les années, bien sûr. Et voilà, donc c'était une belle façon pour moi de souligner l'importance des frères et sœurs.
Et j'imagine que ça va être un beau défi pour le père derrière le scénariste d'essayer d'imaginer à partir de ce que toi t'en as vu dans la réalité vraie, dans le fond, de cette relation-là se bâtir, dans le fond, d'essayer d'anticiper ou d'imaginer quelle pouvait être la dynamique, dans le fond, les pensées, les réflexions d'une jeune fille de 5 ans qui découvre ce frère-là puis qui l'accompagne au fil des années. Comment ça s'est passé pour s'approprier peut-être un peu cette parole-là de ton côté?
Ça a été fait de façon naturelle puisque mes enfants ont en fait l'âge... Mon fils a 20 ans, ma fille en a 25. Donc, j'ai une fille qui a été une grande source d'inspiration pour le personnage de Juliette, bien sûr, même si, encore là, je me suis permis des tas de liberté. Mais je me suis quand même basé beaucoup sur leur relation. Évidemment, j'ai extrapolé, évidemment, autour de ça. Mais je dirais que la dynamique de base, elle est restée à peu près ce que j'en connaissais. C'est sûr que dans l'idée de dire qu'ici, on parle de fiction, il y a aussi, je voulais garder les coups des franges pour pouvoir changer les destins. Alors, sans vendre de punch, là, je voulais éventuellement pouvoir inventer toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie de mes personnages qui ne sont pas arrivées. Et ça, évidemment, là, on est vraiment dans... Écoute, c'est des scènes et des chapitres que personnellement, je n'ai pas vécu, mais que j'ai vu autour de moi. Alors évidemment, on parle de deuil, des enfants qui ont des espérances de vie souvent courtes, mais ça fait partie de la vie. Aussi curieusement que ça puisse paraître, parce qu'évidemment, quand on entend Qu'un enfant puisse décéder à 12 ans, à 15 ans, c'est une histoire très triste. En même temps, c'est des enfants qui, on le sait, vont avoir des vies souvent très courtes, ce qui n'est pas le cas de mon fils, soit dit en passant. Quand ces enfants-là partent, c'est triste, mais en même temps, c'est un peu écrit qu'au même titre qu'une personne âgée de 90 ans, on est triste, mais on se dit, ben, elle avait 90 ans. Et ce qui est commun aux deux, et ce qu'il faut arriver à se dire à la fin de leur vie, c'est de dire, ils ont eu une belle vie. Qu'elle ait duré 12 ans, 15 ans ou 90 ans, il faut pouvoir se dire, cette personne-là a eu une belle vie. Et c'est à ça qu'il faut s'atteler, en tant que famille, mais en tant que société aussi. C'est ce que j'ai essayé aussi de mettre en lumière à travers les institutions qui vont devoir prendre en charge ces enfants-là, que ce soit à la garderie, que ce soit à l'école et plus tard éventuellement des centres.
Oui, tu ouvres la porte justement vers les garderies. La recherche d'un milieu de garde semble avoir été, et dans le récit, en fait, mon Dieu, une épopée presque, dans le fond, dans la mesure où il y a beaucoup, beaucoup de milieux qui, du moment où on commence à parler de la différence de tomes, dans le fond, ne veulent pas se lancer là-dedans. Donc, il y a cette difficulté-là, et éventuellement, quand on réussit à trouver le CPE qui l'accepte, qui l'accueille et de voir comment les enfants qui sont dans ces CPE-là lui apportent aussi beaucoup. Donc là, subitement, on se rend compte de la richesse que cette relation-là et que ces relations-là peuvent représenter aussi pour des milieux comme ceux-là.
Oui, tout à fait. Je dirais que la recherche de garderie, c'est vraiment le premier clash. Parce que là, on va sortir du cocon familial et on n'est plus dans les premières lignes des services dans les hôpitaux, les centres de réadaptation qui sont voués à ça. Là, on rentre dans la société et on dit, bon, ben, mon fils, ma fille va devoir se trouver une place dans la société, dans un CPE tout à fait ordinaire, une garderie comme il y en a plein dans les quartiers. Et là, c'est la dure choc de la réalité parce que ben, tu vois dans les yeux, à partir du moment où tu parles de handicap, il y a des portes qui se ferment. Ton fils, il vient de perdre du galon dans la liste d'attente. Ben, aujourd'hui, ça fonctionne différemment. Moi, ça date d'il y a 20 ans. Les listes d'attente, c'était pas tout à fait la même. Ça fonctionnait pas de la même façon. Mais je dirais que c'est d'autant plus triste que moi, j'ai vécu après certainement le plus beau chapitre de la vie de mon fils, qui est l'intégration dans une garderie exceptionnelle. On est arrivé et un peu comme je l'explique en fait dans la BD, c'est des gens qui avaient fait le choix de dire on va se donner un défi d'accueillir un enfant différent et on va accepter de le faire, mais c'est la garderie qui accepte de le faire. Tous les éducateurs ont accepté de dire s'il reste, je vais le reprendre dans mon groupe et ainsi de suite et il va passer à travers pour arriver à l'école. Et il a été vraiment un vecteur de sensibilisation, de responsabilisation auprès des autres enfants. Et je dirais même plus que ça, il a été. Il y a beaucoup de parents d'enfants qui étaient dans le groupe de mon fils qui avaient des réticences du fait que, ben, écoute, avoir un enfant comme ça qui a un lourd handicap, ça va retarder le groupe, il y a des activités qu'ils ne pourront pas faire, etc. Ça, c'est des choses que j'ai apprises bien plus tard. Au bout de quelques mois, ils se sont tous rendus compte, en fait, de l'effet positif que cet enfant-là avait sur le leur. Parce qu'ils étaient très fiers de chacun, à leur tour, pousser la poussette, d'être responsable de mon fils lors de telle activité. Et bref, il est devenu, ni plus ni moins, qu'un enfant un peu différent, mais qui fait partie de la bande, mais comme d'autres sont très différents. Et tu te rends compte aussi à quel point, à cet âge, à ce très jeune âge-là, donc avant 5 ans, combien le handicap, ça ne veut pas dire grand-chose pour eux. Premièrement, il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à comprendre, mais pour eux, c'est une différence, d'accord. Il ne peut pas taper sur un ballon. OK, bon, ben, c'est correct, fait qu'on va faire autre chose. Et on n'a pas du tout, toutes les instances sociales qui vont arriver plus tard et souvent que leurs parents vont leur inculquer, même sans vouloir être négatif, on va leur dire, ah, cet enfant-là est handicapé et tout à coup, ils vont le voir avec des yeux différents. Bref, c'est un petit microcosme de CPE où moi, j'ai pu voir un petit peu ce que c'était, par exemple, l'importance qu'on a dans notre société de garder l'esprit des groupes multi-âges. En fait, on a tendance à être très compétitif dans notre société. Hein? Dans les classes, on met les bons ensemble, les poches ensemble, et puis voilà. Alors que c'est tout à fait contre-productif. Et que tu regardes dans une famille, qu'est-ce que c'est? C'est des tout jeunes qui vont vouloir faire comme les plus vieux. C'est les plus vieux qui vont se responsabiliser auprès des plus jeunes. C'est une famille avec des grands-papas et des petits-enfants. Et c'est ça qui fait qu'on réussit à faire une société forte, une société qui va s'entraider, puis qui va inclure en fait les gens soi-disant différents, comme il y en a beaucoup en fait.
Oui, puis dans le fond, finalement, on se rend compte que tout le monde va y chercher quelque chose. Je pense que tu le dis bien, Jean-Paul Hyde. Donc, les enfants, les autres enfants vont en prenant soin, en accompagnant, ben, vont grandir, vont évoluer, vont avancer eux aussi. Et en parallèle, je pense que tu le dis aussi dans la bande dessinée, même pour l'enfant qui, lui, est différent, ben, il va aussi faire des avancées. Et je pense qu'à un moment donné, tu dis, ben, regardez, il a avancé plus vite grâce au CPE, grâce à la thérapie, ou du compte, grâce à cette dynamique-là qu'il retrouvait, puis à la volonté que lui aussi pouvait avoir d'émuler ou de faire des choses.
Oui, tout à fait, exactement. Parce que simplement de vouloir par mimétisme faire la même chose que ses amis dans une garderie, de vouloir essayer d'applaudir, taper des mains, faire les petits gestes de la comptine, simplement ça. Et tu te dis, waouh, c'est pas quelque chose qu'un thérapeute aurait pu faire dans un gymnase, là, c'est sûr. Et puis aussi la socialisation. La socialisation, on oublie, mais c'est un des vecteurs très. C'est un des vecteurs les plus importants, en fait, de tout, de la réussite des thérapies. Je veux dire, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que l'image que tu as de toi-même dans une société, l'image que les gens vont te renvoyer de toi-même, l'importance que tu as aux yeux des autres, bien, tout ça, ça se fait en étant exposé à la société. Et très vite, puis ça, c'est très plate, là, mais la société, à partir du moment où on envoie ces enfants-là. Encore là, je fais attention, je parle d'enfants qui ont des handicaps importants, polyhandicaps, donc des enfants qui, dans notre système, sont un peu destinés à aller dans des écoles spécialisées qui sont presque à la fois des hôpitaux et des écoles. Ils sont un peu ostracisés. Ils n'auront plus aucun contact avec des enfants sans handicap pour le restant de leur scolarité. Les seuls enfants sans handicap qu'ils vont rencontrer, ça va être des membres de leur famille, des cousins, ça va être, c'est ça. Mais autour d'eux, rien. Et il n'y a pas de volonté. Ça, c'est un peu triste de ce côté-là, d'essayer de dire, est-ce qu'on ferait des partenariats? Est-ce qu'on ferait des jumelages de certaines activités avec des classes régulières? Pour encore une fois, qu'on réussisse à responsabiliser des enfants des écoles régulières et tisser des liens et leur montrer ce que c'est que la différence. Parce que je suis persuadé, moi, que tous les enfants qui étaient dans la classe, dans le groupe de mon fils à la garderie, sont devenus sans même s'en rendre compte, et peut-être même qu'ils l'ont oublié, mais probablement que l'idée de l'inclusion de quelqu'un qui vit avec un handicap, pour eux, c'est une belle histoire. Et pour leurs parents, ça va être une belle histoire. Et ils vont devenir des ambassadeurs pour ça. Mais pour ça, il faut être exposé.
Oui, et tu le montres en fait aussi parce qu'à un moment donné, après le CPE, ben, il y a l'école qui s'en vient un peu dans la vie de Tom. Et tout le groupe, dans le fond, de CPE va visiter l'école. Et là, on nous rappelle, dans le fond, l'absence d'a priori qu'on a au départ, d'a priori de préjugés. Donc, les enfants, une fois qu'ils ont visité, qui sont informés un peu de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, ben, finalement, différents, pas différents, ils vont tous jouer, dans le fond, dans le cours d'école parce qu'ils ont envie de jouer, parce qu'ils partage, dans le fond, le fait d'être des enfants, au bout du compte, et que pour un enfant, mais c'est suffisant comme point de départ, au bout du compte. Donc, cette volonté de partager, de jouer, d'avoir du plaisir, dans le fond, c'est quelque chose de commun. Donc, c'est une belle base sur laquelle construire. Et dans le fond, on peut imaginer avec cette séquence-là, mais ce que pourraient être justement les échanges dont tu viens de parler ou les ouvertures qu'on pourrait se donner dont tu viens de parler.
Oui, tout à fait, tout à fait. Cette scène-là, à la toute fin, moi, je l'ai vécue. C'est une scène un peu exceptionnelle, mais on avait des gens exceptionnels autour de nous qui l'ont organisée. Et le groupe est allé donc à la future école de mon fils, aller visiter. Et cette scène-là où j'ai vu ces enfants, les enfants de la garderie de mon fils qui venaient avec lui visiter les grands corridors vides et comme ça, à un moment donné, la cloche sonne et sortent des classes des enfants avec des casques, avec des marchettes, des fauteuils roulants et de voir qu'eux autres étaient tétanisés parce qu'il y en avait autant. Et ils se faisaient pour la première fois voir comme les enfants différents. Tout le monde tournait autour d'eux en leur demandant: « Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne comprends pas. Pourquoi? Et évidemment, ça a duré, mon Dieu, ça a duré 10 minutes parce qu'à partir du moment où c'est la récréation, tu sors un ballon, il y a plus d'handicap qui tient, là.
Et donc, c'est de trouver, dans le fond, puis j'imagine un peu parce que ça devient un peu le paroxysme aussi de ton album. Dans le fond, on chemine vers ce moment-là, vers ces instants-là. Donc, on choisit de l'amener un peu parce que ça a été, ça vient bien amener le crescendo qu'on veut placer en termes de récit autour de l'idée de trouver sa place, d'une certaine façon, de se mettre en relation et le reste. Donc, ça semblait servir être un bon point d'orgue, dans le fond, pour le petit astronaute.
Oui, en fait, c'est d'opposer, c'est de renverser un petit peu les points de vue. C'est de dire, alors qu'on a eu le point de vue de la société sur cet enfant-là qui était différent, ben pour une première fois, on va avoir l'inverse. Là, on va se trouver dans une petite micro-société où tout le monde est handicapé. C'est des handicaps physiques avec d'autres associés. Mais ce sont des gens qui sont, par définition, leur trait commun, c'est d'être différent. Leur trait commun, c'est d'être inclassable. Je le dis souvent, c'est une ménagerie fantastique. C'est des enfants qui ont, et je dirais plus que ça, c'est avec les thérapeutes qui y travaillent, évidemment, il y a des professeurs, mais il y a des gens qui vont travailler à la communication et la communication non orale, par exemple avec mon fils, ou en fait des enfants qui sont vraiment enfermés dans un sarcophage, ni plus ni moins. Ils vont arriver là au début de leur scolarité, à 4 ou 5 ans. Et le travail, ça va être d'essayer de trouver la faille, le trou par lequel ils vont être capables d'avoir une prise sur le petit rayon qu'ils vont avoir autour d'eux. Et ça va être quoi? Pour certains, ça va être un senseur sur un appui-tête dans un fauteuil roulant qui va leur permettre d'actionner un fauteuil électrique. Ou ça va être, comme certains, avec les pieds, par exemple, d'actionner un appareil vocal avec des pictogrammes sur lesquels on appuie et on va entendre le mot. Et tout ça, c'est un travail de très longue haleine, qui est individuel pour chacun. Et je t'assure, Raymond, c'est probablement l'une des scènes les plus émouvantes qui me soit arrivée de voir. C'est de voir dans un corridor tout à coup, comme je l'ai vu pour mon fils, un enfant harnaché dans une marchette trop grande pour lui qui fait un premier pas et qui se rend compte, tu vois, dans ses yeux que tout à coup, le monde lui appartient. Parce qu'il a réussi avec un pas à dire qu'il pouvait aller quelque part. Et ça, que ce soit pour certains, c'est être capable de s'exprimer à travers des appareils, à travers des outils, c'est des miracles qu'on voit, c'est des athlètes de haut niveau qu'on voit dans des gymnases, évidemment, qui vont réussir à ramper sur quelques mètres, mais c'est vraiment fabuleux de voir ce qu'on est capable de faire dans ces écoles-là. J'en parle un petit peu de la réadaptation. Dans un centre, mais c'est vrai que c'est vraiment un endroit où on est en train de forger des ados parce que c'est les années où ils sont malléables, c'est des années où ils ne pèsent pas encore trop lourd, c'est des années où il faut reconstruire leur masse musculaire au niveau cognitif aussi, qu'ils soient capables d'avoir quelquefois, c'est simplement une logique de communication pour réussir à parler à travers des pictogrammes ou à travers des gestes, etc. Non, c'est un monde. Ça donne un choc quand on ne connaît pas ça, hein, quand on arrive, par exemple, dans une école comme ça ou dans un centre de réadaptation. Mais une fois que le choc est passé, c'est vraiment. Ça te souffle. Écoute, les mots me manquent parce que j'y repense encore aujourd'hui, puis je me dis, c'est vraiment des faiseurs de miracles que j'ai vus dans ces corridors-là.
Et j'imagine que c'est des relations qui marquent aussi, même à la limite, étant jeune. Est-ce que même, c'est pour les enfants qui ont côtoyé ton fils, par exemple, au CPE, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui qui ont gardé le contact avec lui, qui continuent de le suivre, de côtoyer, ne serait-ce que de façon occasionnelle?
Oui. Ben, écoute, il y en a un qui est en fait le petit garçon qui a inspiré le personnage de Mathias, on est resté très près, en fait, des parents, et puis on est resté, enfin, près, lui, écoute, il a 20 ans, il mène sa vie de vingtenaire, là, qui est très loin de la vie de mon fils, évidemment, parce que plus ils vieillissent, plus le fossé s'agrandit entre les deux, mais il y a toujours, et encore pour mon fils, sur son tableau de communication, il y a une image de ce petit garçon-là qui aujourd'hui a 20 ans. Et je sais que, par exemple, quand on a fêté les 18 ans de mon fils, ben, l'autre, son petit ami, a été le premier à répondre pour dire « oui, moi, je vais y être ». On a repris la photo qu'on avait à la garderie des deux qui se tenaient main par la main à 4 ans. Donc, il y a des liens qui se créent. Puis moi, c'est des liens qui me réconfortent, qui me disent qu'il y a moyen de faire de belles choses aussi en intégrant des enfants à besoins particuliers.
Et au final, en fait, je pense que j'ai envie de conclure sur quelque chose que tu as dit en entrée de jeu, mais je pense que c'est un élément important, en fait, pour dans la compréhension que j'en ai de ton parcours avec Le Petit Astronaute. Dans le fond, c'est l'album que si tu avais lu à l'époque, il t'aurait fait du bien. C'est l'album que tu aurais eu besoin d'avoir il y a 20 ans, dans le fond. Et j'imagine que ça doit être libérateur de pouvoir se dire, ben moi, je ne l'ai pas eu, cet album-là, je ne l'ai pas eu, ce récit-là, mais d'autres vont pouvoir l'avoir. Donc, de mettre ça, de lancer ça au monde puis de le rendre disponible, dans le fond, en disant, ben moi, j'en aurais eu besoin maintenant, il existe, cet objet-là.
Oui, écoute, d'autant plus, comme je le disais, c'est confirmé par des tas de témoignages que je reçois en ce sens-là. Et pour moi, c'est la plus belle récompense que tu puisses recevoir, bien plus que tous les prix du monde. C'est d'avoir quelqu'un qui dit votre livre a mis du soleil dans la mauvaise nouvelle que je viens de recevoir. Et ça, j'en ai eu des témoignages comme ça. Des parents endeuillés, des frères beaucoup, des sœurs aussi, des gens qui sont autour de moi dont j'ignorais la vie de famille. Et ça, honnêtement, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est de me dire que mon livre, en plus de divertir, ben, il est utile.
Oui, puis en fait, pour ceux, parce que je ne voulais pas non plus donner l'impression qu'il y a juste ceux qui vont partager cette réalité-là avec toi, qui vont y trouver leur compte. Au contraire, je pense que c'est un album qui devrait être lu le plus largement possible pour comprendre aussi, pour avoir une autre perspective, parce que tu le disais aussi d'entrée de jeu, mais dans le fond, on a tendance à avoir beaucoup d'images plus négatives, plus sombres dans ce qui est partagé, et donc de s'ouvrir à cette autre perspective-là et à la lumière qui peut jaillir des relations qu'on peut tisser aussi, peu importe ce qu'on traverse ou peu importe les cartes qu'on a au début de notre existence, dans le fond.
Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est ce que je me rends compte, en fait. Je me rends compte à quel point c'est une histoire universelle parce que il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans à beaucoup de niveaux. En fait, c'est l'acceptation de la différence, c'est l'inclusion même de façon beaucoup plus large que le handicap. C'est simplement de dire que, en fait, nous sommes la somme de gens très différents. Et si on ouvre la fenêtre et on regarde sur le trottoir, il n'y a pas deux personnes pareilles. C'est une espèce de fausse image qu'on a d'une homogénéité de la société, alors que dans les faits, c'est pas ça du tout. Et c'est un récit qui, je pense, va parler aussi beaucoup aux parents de façon générale, parce que quand tous nos enfants vont avoir un jour ou l'autre des défis, certainement pas aussi importants que celui de Tom, mais ça ne prend pas grand-chose, hein, un enfant pour se sentir rejeté, pour se sentir différent. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants, on a vécu des choses à travers lesquelles on est passé. Et en même temps, ce sont des étapes formatrices qui vont faire l'adulte qu'on est devenu. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que c'est un livre qui rejoint, en fait, qui rejoint beaucoup de préoccupations de parents et beaucoup de vécu de lecteurs.
Alors, le livre, je le rappelle, c'est « Le petit astronaute », c'est de Jean Polide, c'est du côté des éditions La Pastèque, à mettre dans vos listes de lecture à courte échéance. Jean Polide, merci beaucoup.
Bien, merci à toi, Raymond.
Voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Un plaisir, comme d'habitude, d'être avec vous et je vous souhaite une excellente semaine.